Chapitre 11. Les fiançailles sont officielles et chaque jour, je vois la mortelle qui doit ordonner, créer le foyer de mon cousin. Elle paraît posséder au plus haut point la qualité de passivité chère à André. Il n'exprime pas un avis sans qu'elle l'adopte aussitôt. Mais une remarque facile à faire sur cette jolie, très jolie nullité, c'est que, tout en ayant l'air d'accepter les idées de son fiancé, elle s'obstine dans les siennes, ou plutôt dans ses projets, quand ils sont entrés dans sa tête. Le projet est-il 100 fois déraisonnable, elle revient à la charge et André cède sans même s'en apercevoir. S'il résiste, elle boude. Et il cède encore en se disant que Mademoiselle Duchélane est une enfant un peu gâtée, qu'il saura dresser plus tard. Il y a chez lui une profondeur de tendresse qui se manifeste par des attentions dont elle ne saisit ni la portée ni la délicatesse. Elle est incapable de pénétrer dans la nature complète d'André et de saisir l'étendue de ses facultés. Elle m'a prise en gré et, se liant avec une facilité surprenante, m'honore de ses confidences. Elle me fait entrer dans sa chambre, dont l'arrangement m'inspire des réflexions mélancoliques sur la tenue future de sa maison. Non pas que ce soit en désordre, mais ni les meubles ni les objets ne paraissent avoir la place qu'ils devraient occuper. Elle ne mettra jamais d'harmonie dans ses casseroles qui se heurteront, j'en suis bien sûr, avec un bruit insupportable. « Je n'ai plus beaucoup de temps à venir ici, » me dit-elle l'autre jour. « Que voyez-vous qui vous intéresse ?» J'étais devant la fenêtre, regardant vaguement la vue splendide qui eût apaisé mon pauvre cœur s'il avait pu être apaisé. « C'est vraiment beau, » dis-je. « Oh, c'est là tout ? J'espérais un incident. » « Vous n'aimez donc pas la nature ?»« Je suis bien ennuyée de l'entendre vanter. J'aimerais mieux parler de notre sujet. » « Eh bien, parlons de votre mariage. Il aura lieu, n'est-ce pas, chez votre grand-mère ?»« Non, non. Cependant, je m'y serais bien mariée, maintenant qu'on peut avoir de la musique et des fleurs, mais avant, jamais. Quelle idée avait eu l'archevêque ?»« Comment ? Vous savez bien pourquoi ? Vous savez à quel état douloureux est réduite notre Église de France ?»« Oh, maman dit que ça ne nous regarde pas. Nous donnons notre offrande, voilà tout. » « N'êtes-vous pas catholique ? » dis-je étonné. « Mais si, très catholique !» répondit-elle avec plus de vivacité et de conviction qu'elle n'en met ordinairement dans ses paroles. « Eh bien alors, vous ne pouvez pas vous désintéresser des fêtes. Si vous vous étiez marié sans face, vous auriez donné à l'Église la somme que vous comptiez consacrer à ce luxe. »« La donner à l'Église ? » répéta-t-elle fort surprise. « Papa a dit que j'aurais eu un bijou de plus. » J'essayais de lutter, mais je me heurtais à une telle ignorance et à un égoïsme si complet que j'en fus découragé. « Nous irons quand même en octobre à Paris, » me dit-elle d'un air fatigué. « Vous en serez enchanté. » « Oh, enchanté ! J'aime bien mon fiancé, mais... »« Mais, que voulez-vous dire ?» « Je veux bien vous le confier. J'aurais voulu épouser un officier. C'est si joli, un homme en uniforme. » Que répondre ? Je me sentais anéanti. Nous descendîmes dans le salon où nous trouvâmes ma tante et André, lequel se précipita pour faire sa cour. Moi, je réfléchissais, je réfléchis encore. L'aime-t-elle ? La conversation précédente n'est pas la preuve d'une affection bien solide et je me demande si... Mais à quoi vais-je penser ? Sûrement, ni elle ni ses parents ne reviendront sur leurs paroles. Ce n'est pas que M. Duchélane m'inspire une grande confiance. Gonflé de vanité, faisant résonner le cliquetis de ses relations riches ou titrées, il a accepté André, en partie parce que la carrière de mon cousin se présente comme devant être exceptionnellement brillante, mais j'imagine que, si un duc et père se présentait, les regrets seraient amers, et qui sait ? Je sortis de ma rêverie pour voir entrer précisément celui que j'honorais de mes réflexions charitables. Tout feu, tout flamme, il venait de discuter avec un abbé qu'il s'était permis de lui dire, bien en face, ce dont je le louais fort, que les catholiques, qui refusaient leur obole à l'église dépouillée, étaient très coupables. Il en parle à son aise. Je connais de pauvres gens qui ont 100 000 à 200 000 francs de rente et arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Les malheureux, dit André avec commisération. Mais oui, mon cher, c'est terrible, je vous assure. C'est affreux, en effet, répliqua André, décidé, toujours à cause de son amour, à considérer ses beaux-parents comme des naïfs délicieux et de si braves gens. Madame Duchélan arriva à la rescousse pour jeter sur le sujet la plus vive lumière. « Voyez notre position, mon cher monsieur, à nous, femmes, quand nous allons chez notre maudisse, par exemple. Elle nous met une plume de 60 francs sur un chapeau. Impossible de résister tant elle est entortillante et nous avons à payer 150 francs sans presque nous en douter. Comment voulez-vous, après cela, que nous donnions à l'église ?»« Sans presque nous en douter est ravissant, dit André, résolu à s'amuser. » Mais ma tante, qui ne transige pas sur les principes absolus, répondit avec un peu d'impatience. « Mon Dieu, madame, c'est bien simple. On remplace la plume de 60 francs par une plume de 20 ou par un pompon. »« Un pompon ?» s'écria madame Duchélan avec horreur. « J'ai dit pompon. Une modiste habile le rendra élégant et la différence sera réservée pour le denier du culte. » La situation sociale de Madame d'Arlancey, plus encore la distinction, l'intelligence, l'esprit juste de cette charmante femme, lui donnent une autorité incontestable et incontestée. Ses appréciations sont répétées, je le sais, et plus d'une fois, elles ont redressé de faux jugements. Ne fût-ce que pour ne pas sortir d'un courant général, Madame Duchélan eut subi l'influence de ma tante. « Vous croyez, dit-elle, je n'avais pas pensé à cela. En effet, on peut apporter quelques modifications. » « J'aime mieux la plume !» dit Marie avec une petite moue enfantine qui la rendait séduisante et fit sourire son fiancé. Le benêt, malgré son intelligence. Au fond de l'âme et sans aucun retour sur moi-même, j'étais navrée en songeant au choix d'André. Ses yeux s'ouvriront un jour et il sera trop tard. Il se fatiguera de n'avoir en face de lui qu'une machine à répéter. Machine est une manière de dire car elle aura des volontés aveugles et têtues. Quel milieu intelligent pourrait choisir une compagne ? À quoi penses-tu ? Me dit Madame d'Arlancey, avec laquelle je revins seule au quai Lénigo. Au Chélan. J'en étais sûre. Tu les trouves un peu naïfs ? La naïveté est souvent une qualité, répondis-je. Mais l'inintelligence ? Ils sont dans une bonne moyenne. Et de si braves gens. Ce refrain me jetant hors de mes gonds, je me plongeais dans un mutisme prudent. Qu'André, amoureux, soit livré à l'imbécilité la plus complète, je le comprends. Mais Madame d'Arlancey, si femme du monde et si bonne, après tout, peut-être sa bonté est-elle plus clairvoyante que ma sévérité. Parfois, je m'examine en me demandant si mes sentiments personnels ne me précipitent pas moi-même dans l'excès contraire à celui de mon jeune tuteur.